Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de ne pas avoir oublié votre rendez-vous comme chaque samedi à 11h sur Radion. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la diffusion d'une des deux tables rondes que j'ai animées lors du Salon du Livre organisé par les bénévoles de l'association Mine de Lire, un salon qui s'est tenu le 10 octobre dernier à Blanzy, en Saône-et-Loire. Et la première table ronde réunissait trois auteurs qui avaient été sélectionnés par les organisateurs de ce salon de Blanzy. D'abord, le dessinateur Duf. Pour sa bande dessinée dite 33, Duf, qui est médecin à Nevers et dont nous aurons l'occasion de découvrir la multiplicité des talents, et nous parlerons avec lui de cette bande dessinée intitulée dite 33. Nous avons aussi donné la parole à Marie Morgan, qui est dessinatrice et qui a fait paraître une trilogie qui revient sur l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est-à-dire que l'histoire s'est suivie dans les années 1760 en France, au milieu du XVIIIe siècle, l'occasion avec elle de revenir sur cette histoire de bête diabolique qui tuait des femmes et des enfants. Un grand nombre d'explications seront en tout cas mises à jour à travers son intervention. Et puis nous allons ouvrir ce wagon livre avec une jeune enseignante. Elle est professeure de lettres classiques et elle a fait paraître un recueil intitulé « Récits presque mythologiques » avec en sous-titre « Paroles de femmes ». La mythologie, bien évidemment, c'est la mythologie des Grecs et des Romains qui demeure assurément plus attachante que n'importe quelle autre. Et cette mythologie reste bien vivante parce qu'elle est proche de l'humain. En tout cas, c'est un univers que Floriane Bremand adore. Elle s'en explique à notre micro. Je vous rappelle que les auteurs que vous allez entendre ont été enregistrés le 10 octobre dernier lors de la première table ronde organisée par le salon Mine de Lire à Blanzy en Saône-et-Loire. Floriane Bremand.
Je suis très très intéressée par cet univers qui est très riche. Vraiment, comment dire cela, où il y a un enseignement en fait extraordinaire. Au départ, on est certes avec ces histoires d'une rare violence, mais il faut aller au-delà. Il faut regarder en fait tout l'enseignement qui est derrière, tout ce qui est à comprendre, toute la mythologie en fait part d'histoire, mais avec une richesse infinie qui mérite en fait de s'y attacher. Et malheureusement, en fait, tout ce qui est lié à l'Antiquité est très très misogyne. Le personnage féminin n'est un objet ou un instrument de malheur. Donc mon idée de base était simplement de remettre ces personnages féminins au goût du jour, au premier plan, de façon positive ou négative, puisqu'un être humain n'est pas parfait, il est humain, avec ses qualités, ses défauts. Donc il y a des personnages féminins très très positifs et d'autres très négatifs.
Alors vous dites que effectivement la mythologie aurait tendance à être misogyne. Néanmoins, il y a des femmes redoutables dans cette galerie de personnages de la mythologie gréco-latine. Si on prend l'Odyssée, les compagnons d'Ulysse, à un moment, il y a des sorcières, il y a des femmes qui ont des pouvoirs maléfiques, diaboliques. Je dirais, dans l'utilisation moderne de cet adjectif, puisque à l'époque, le diable, la notion de diable n'existait pas, on est effectivement dans une religion qui est païenne. Et c'est vrai qu'il y a tout de même des femmes qui ont des rôles extrêmement nobles. Je pense que Pénélope est une femme qui fait preuve à la fois d'habileté, de ruse, et c'est une femme courageuse qui attend patiemment. Et fidèle et loyale, puisqu'elle repousse les prétendants, attendant pendant des décennies le retour d'Ulysse à Ithaque. Donc il n'y a pas... Pardonnez-moi, là, je suis obligé un petit peu de nuancer. Je ne dis pas que ce que vous avez énoncé était totalement erroné, mais peut-être peut-on apporter un peu des nuances.
Je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, Pénélope limite l'exception qui confirme la règle, parce que sinon, on va parler d'Hélène, qui est donc l'objet de la guerre de Troie. Ensuite, on va parler de Médée, qui est la femme sanguinaire et malheureusement le personnage le plus puissant. Donc, après, je nie pas les femmes qui sont nommées, qui sont fortes, mais malheureusement, à l'exception des déesses et des sorcières, comme vous le dites, les femmes sont relativement absentes de la mythologie, mais ce n'est pas, enfin, pas de la mythologie, de l'histoire grecque, mais ce n'est pas volontaire une misogynie assumée. C'était la culture antique qui était comme cela à l'époque. Donc, mon idée dans les années 2000 a été justement de réveiller ces personnages qui ne sont pas absents, mais qui sont souvent camouflés derrière les personnages masculins.
Bon, il est vrai aussi que les cultures du Sud et du pourtour méditerranéen donnent toujours le beau rôle plutôt au monde masculin.
C'est ça.
Alors, votre passion pour la mythologie, alors, comment est-elle née ? Par les études de latin ou une passion, une grande... Est-ce que vous êtes une grande lectrice des auteurs gréco-latins ?
Elle est née justement à l'école, en cours de grec ancien. J'y suis entrée par le plus grand de tous les hasards. C'était pas vraiment une option que je voulais faire au départ et je l'ai faite. Et en fait, vraiment, ça a été une révélation. J'ai vraiment adoré toutes ces histoires sur la mythologie. J'avais un enseignant qui était formidable, en fait, qui nous faisait vivre les histoires grecques. Et c'est comme ça que cette passion est née. Et après, de mon côté, je suis allée lire les histoires, donc l'Iliade, l'Odyssée, Ovide aussi, beaucoup. Et c'est vraiment devenu... limite virale, il fallait que je découvre en profondeur ces histoires sur la mythologie.
Alors, sans flagornerie aucune, je dirais que tout de même, vous exploitez un univers alors extrêmement riche, compliqué, avec des descendances extrêmement complexes qui parfois nous tourneboule un peu l'esprit, d'une part. D'autre part, vous écrivez des nouvelles. Or, faire court en littérature, c'est très difficile. C'est aussi vraiment une contrainte que vous vous imposez. Vous aimez donc la difficulté, vous aimez le côté un peu labyrinthique de l'écriture, pour utiliser notamment un clin d'œil à une de vos nouvelles, où bien évidemment il est question du héros qui vient tuer le Minotaure.
Comment ? Là, vous m'avez piégée. En fait,
le plus dur, c'est de sortir du labyrinthe pour donner une réponse.
C'est cela. En fait, je suis romancière à côté, donc j'aime aussi développer. Mais pour ce qui est de la nouvelle, justement, la nouvelle mythologique, je suis partie à la base sur ce support-là. C'était lié à un concours. J'ai participé à un concours de nouvelles et donc... mon sujet naturel était venu justement sur la mythologie, donc j'ai écrit et donc la nouvelle est venue comme un support après logique, puisque j'ai voulu prolonger cet univers-là. Mais effectivement, il y a un réel défi, puisque la mythologie, on peut écrire des pages et des pages sans jamais s'arrêter. Et là, il y a vraiment tout un effort de résumer, de raccourcir le travail.
Floriane Bremand-Chotteret, que vous explicitiez l'utilisation de l'adverbe « presque » dans le titre de votre recueil de nouvelles, « Récit presque mythologique » avec le sous-titre « Paroles de femmes ». Pourquoi « presque mythologique » ? Parce que vous prenez une certaine liberté créatrice à, je ne dis pas détourner, au contraire, vous gardez... Mais c'est intéressant, ce côté, cette approche sinueuse comme ça, où vous exploitez le mythe en l'adoucissant, en le transformant, en le nuançant, et là en valorisant effectivement des femmes.
Exactement. L'idée de l'adverbe « presque » était là pour conserver cette liberté littéraire qui me tenait à cœur. Donc, il y a tout d'abord un travail d'approfondissement et de recherche sur le mythe. Et ensuite, je m'en libère plutôt au niveau du support ou de l'angle choisi. Et il y a une exception, c'est donc sans entrer dans les détails pour si vous souhaitez lire le recueil plus tard, c'est pour le personnage d'Hélène, où là, effectivement, j'ai pris une liberté sur le mythe original, où j'ai modifié la fin. Mais sinon, presque, c'est vraiment par rapport à la liberté sur le support.
Floriane Bremand, est-il indiscret de vous demander professionnellement ce que vous faites dans l'existence ?
Je suis enseignante de lettres classiques.
D'accord. Et vos élèves ont-ils eu l'opportunité de découvrir que vous écriviez des histoires presque mythologiques ?
Alors non, ils ont découvert que j'écrivais des romans de fantaisie, mais ils n'ont pas vu que j'écrivais des romans, des nouvelles sur la mythologie grecque.
Alors comment, quand on est pétri de culture antique, en vient-on à basculer dans l'écriture de romans de fantaisie, d'heroic fantasy, c'est cela ?
Il y a de l'heroic fantasy, il y a de la science-fiction aussi.
Pourquoi ne pas, parce que généralement, quand on est enseignant de surcroît de lettres classiques, il y a un certain prestige, me semble-t-il, encore aujourd'hui dans l'université française à l'égard des humanités, qui malheureusement ont tendance à disparaître un peu des cursus scolaires, hélas, alors que c'est le fondement même de notre culture européenne, il faut le dire. Comment bascule-t-on vers un genre qui est regardé parfois quand même par l'univers intellectuel, je pense l'heroic fantasy, avec un petit peu de condescendance, un peu de mépris? Enfin, je peux me tromper, mais...
Vous ne vous trompez pas, non.
L'enseignant prend un risque, ou en tout cas une audace, une femme libre.
Oui, après, c'est aussi la chronologie qui va entrer en compte. J'ai écrit avant d'être enseignante, puisque j'ai publié mon premier roman à 19 ans et je suis devenue enseignante à 25. Après, l'heroic fantasy, en fait, est aussi l'héritage caché de les épopées modernes, enfin des épopées antiques, pardon, je m'excuse. C'est vraiment dans l'épopée que vit tout le cursus mythologique au départ. Et dans l'heroic fantasy se retrouvent les valeurs de l'épopée, donc c'est-à-dire les guerriers, la quête, etc. Donc c'est pour ça que souvent les deux vont se retrouver, même si les deux univers sont diamétralement opposés aujourd'hui.
J'isole quelques-uns des propos. Alors, je ne dis pas que vous y adhérez, mais je les isole pour vous faire réagir, Floriane Bremand. Par exemple, j'ai relevé « Nombre de mâles sont des créatures dépourvues de raison ». Vous écrivez également « Les hommes sont stupides de toute façon ». Et qu'ai-je noté ? Ah non, c'est pour les dieux cette fois. Même les dieux ont droit à quelques taquineries. Vous écrivez « Les dieux ont un sens de l'humour douteux ». Alors c'est très amusant aussi, le regard vraisemblablement, l'avis de l'auteur qui se glisse dans ces histoires mythologiques où vous prenez toute votre part de liberté et de critique. On sent que vous avez envie un petit peu de griffer, attention Duf, hein, cet auteur griffe un peu les hommes dans ses textes.
Oui, je suis tatillonne avec ces messieurs. Je le concède et le tome 2 est aussi incisif, on va dire, à l'égard de la gente masculine. Mais je me défends, les femmes prennent aussi pour leur grade dans le recueil, hein.
Oui, par exemple, dans la dernière nouvelle, L'étrangère, qui est très jolie, donc ce gynécée, ces femmes qui sont des prêtresses du temple de la déesse Artémis, c'est bien cela, hein, Floriane, et qui voient arriver une jeune femme. Alors là, on retrouve un peu le côté méchant des femmes lorsqu'elles sont entre elles, rivalité, curiosité, humiliation. Ça, c'est très intéressant et c'est une très, très belle nouvelle. La difficulté, peut-être, pour la lectrice ou le lecteur... Alors, pour moi, j'ai révisé un peu ma mythologie grâce à vous et je vous en remercie. Mais il s'agit aussi de reconnaître les personnages. Et je trouve ce qui est très beau dans vos nouvelles, c'est que ce sont des stimulants intellectuels qui nous invitent vraiment à revisiter, grâce à vous, vous savez titiller notre curiosité et quelque part notre mémoire culturelle en essayant de trouver, et ça c'est extrêmement pertinent, très judicieux, très fin et très appétissant, en tout cas je trouve que c'est assez remarquable, c'est un compliment bien sûr.
Je vous remercie. Effectivement, les nouvelles en fait fonctionnent sous forme d'énigmes. Le nom du personnage n'apparaîtra jamais avant la toute fin. Donc vous pouvez essayer de retrouver qui est le personnage avant la chute. Sinon, si vous ne retrouvez pas, ça vous permet de réviser entre guillemets ou de redécouvrir certains personnages qui n'existaient quasiment plus en fait. Parce qu'ils étaient, je pense notamment à la nouvelle Tapis dans l'ombre, où le personnage en fait est quasiment inexistant des mythes actuels, parce que ce sont ces deux frères qui prennent en fait la place énorme, qui sont dans le mythe, et donc elle, je l'ai mis en tant que témoin de l'histoire, et c'est vrai qu'il y a actuellement très très peu de personnes qui ont reconnu le personnage. Sur tous les lecteurs que j'ai eus, il y en a avoir trois qui l'ont retrouvé avant la fin.
Oui, moi je n'avais pas retrouvé et je trouve que justement il y a un cheminement intellectuel qui pose question, qui nous renvoie à un univers alors effectivement très viril où les valeurs de la force, mais où des valeurs de courage, mais aussi d'amour sont. Enfin, c'est cet univers de la mythologie gréco-latine, on devrait, à mon avis, y revenir parce que dans une société un peu troublée où, me semble-t-il, la confusion intellectuelle s'est grandement installée, revenir aux fondamentaux, à des histoires tragiques dont, d'ailleurs, un grand nombre de figures littéraires se sont appropriés, je pense au XVIIe siècle, où l'Antiquité était vraiment utilisée comme une base morale. Et finalement aussi pour les élèves, peut-être que votre inspecteur de lettres pourrait éventuellement recommander certains enseignants en sixième d'utiliser certaines de vos nouvelles avec précaution, avec un apparat critique apporté à l'élève.
Oui. Ça serait, si ça venait de l'inspecteur, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, je sais qu'il y a des enseignants qui le travaillent, puisque j'ai été contactée en tant qu'auteur pour intervenir dans des une fois en lycée avec Parole de femme et dans le cadre du brevet des collèges.
Pourquoi, dans le cursus scolaire dans notre pays, on aborde la mythologie en classe de sixième, c'est toujours le cas, me semble-t-il.
Oui.
Est-ce que c'est pas un peu trop tôt ?
C'est tôt, et en même temps, c'est lié au programme d'histoire, puisque l'Antiquité est liée au programme de sixième. Donc, pour être raccord sur les programmes de français et d'histoire, on fait les deux ensemble. Et c'est après aussi, entre guillemets, le moyen d'amener les élèves à aller choisir l'option latin et grec quand elle est proposée au collège. Pour ces élèves-là, maintenant, c'est vrai que c'est tôt.
Et alors, un petit mot quand même sur le tome 2, les hommes, c'est zéro.
C'est à cause de mes élèves, puisqu'ils n'arrêtaient pas de dire « Oh madame, il y a des zéros !» Je fais « Non, c'est un H aspiré, sinon ça devient des tocards. » Et en force de l'entendre, ça m'a amusée. Je me suis dit que ça ferait un bon sous-titre pour le tome 2, qui là va présenter donc les personnages masculins, donc les héros grecs, mais non plus comme des héros, mais comme des zéros, mais vraiment pas dans le sens ridicule simplement, ils deviennent humains. Donc par exemple, on a le personnage d'Hector, qui est un très très grand héros de l'Antiquité durant la guerre de Troie, qui là n'apparaît plus comme un guerrier, mais comme un père. Donc c'était pour ça que le tome 2, c'est les zéros.
À l'instant, c'était Floriane Breman pour son recueil récit presque mythologique « Paroles de femmes » dit nouvelles de Médée à Hélène en passant par Hécube. Les femmes d'avant n'ont pas dit leur dernier mot. Et puis notons aussi l'autre recueil de récits presque mythologique de Floriane Breman qui a pour titre « Les hommes, c'est héros ». On peut commander ses livres en librairie ou alors on peut aussi les commander en passant par le blog de Floriane Bremand que vous trouverez aisément à partir d'un moteur de recherche. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans votre wagon livre sur Radio, nous vous proposons la première des deux tables rondes que j'ai animées et qui ont été enregistrées en public lors du salon Mine de Lire à Blanzy. C'était en Saône-et-Loire le 10 octobre dernier. On marque, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et on se retrouve juste après avec Marie Morgan, dessinatrice, pour parler de la trilogie de sa bande dessinée consacrée à la bête du Gévaudan. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans une poignée de minutes.
De revoir cet endroit chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens autour, et le son de ce bourdon qui revient toujours. Son grand ouvert, et laissons venir la cinquième saison. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de retour en septembre? On ira boire quelques verres, mais les jours se ressemblent. Qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre? Novembre vient l'hiver, qu'on appréhende et qu'on espère. Après la coupe, le regain, le pollen et la poussière. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons la cinquième saison. Laisse ouvert, laisse entrer l'air, le grand air que l'on inspire, que l'on espère faire trembler les cloisons. Et sur les bouts de fer, nos griffures et nos vieux cotillons. Et souffler sur la poussière, les points d'usure, quand l'amour tourne en rond. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons la cinquième saison. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le 10 octobre dernier, nous étions en Saône-et-Loire, très précisément à Blanzy, pour participer à la troisième édition du Salon du Livre, organisé par l'association Mine de Lire, présidée par Yves Jacob, que je salue très chaleureusement, ainsi que toutes et tous les bénévoles de cette association qui ont rendu ce salon toujours aussi chaleureux et sympathique. Et au cours de ce salon, j'y ai animé deux tables rondes. Aujourd'hui, nous vous proposons la première de ces deux tables rondes qui ont été enregistrées en public. Au début de notre émission, vous avez pu entendre Floriane Bremand et nous étions dans l'univers des mythologies gréco-latines. Et bien cette fois-ci, grâce à Marie Morgan et à sa trilogie en bande dessinée, nous allons nous projeter au milieu du XVIIIe siècle au royaume de France, puisque sa trilogie revient sur l'histoire de la bête du Gévaudan, vous savez, cette bête diabolique qui tuait femmes et enfants. Eh bien, d'ailleurs, pour composer ces trois bandes dessinées absolument passionnantes qui font revivre cette intrigue captivante et frissonnante de la bête du Gévaudan, Marie Morgan a consulté un grand nombre de sources documentaires. Et d'ailleurs, elle nous en parle. Je lui laisse la parole pour une dizaine de minutes absolument passionnantes sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Marie Morgan, c'était au Salon du Livre Mine de Lire à Blanzy le 10 octobre dernier.
Déjà, des ouvrages sur la bête du Gévaudan, il y en a énormément. Et en fait, chacun a sa théorie. Et en fait, les auteurs défendent tous leurs théories, souvent en détruisant les théories des autres. Donc c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver, parce qu'on va trouver les partisans des loups, donc qui vont, eux, prendre la défense des loups, et qui disent qu'en fait, les déplacements de l'animal, en fait, à cette époque, sont tout à fait faisables pour un loup. Parce qu'il faut savoir qu'un loup peut faire jusqu'à 50 km par jour. Donc c'est tout à fait possible qu'il n'y ait eu qu'une seule bête. Après, il y a des théories comme quoi il y en aurait eu plusieurs. Mais alors ceux qui sont contre les loups vont dire que c'était des meutes de loups en fait qui attaquaient, ou alors des loups solitaires. Après il y a des théories beaucoup plus fantaisistes comme quoi c'était extraterrestre, que c'était une hyène, que c'était un babouin. Enfin bon, ah non mais on en trouve. Hein.
Ou loup-garou.
Ou loup-garou.
Alors, garou. Ça, la version parce qu'il en est question dans votre bande dessinée, il est question aussi de garou, c'est-à-dire des hommes qui se serait transformé en loup. Et il y a aussi des histoires dans l'Antiquité gréco-romaine sur la lycanthropie, ce qui est passionnant d'ailleurs.
Oui. Alors, en ce qui concerne justement l'histoire des garous, c'est que justement, comme je me suis mis du côté des paysans. Et en fait, il faut savoir que du côté des paysans à l'époque, tout ce qui était garouage, comme ils y appelaient, c'était des mythes qui étaient très fréquents en fait. Et pour les paysans qui côtoyaient des loups tous les jours, faut dire que les loups, ils traînaient autour des troupeaux et ils savaient très bien comment les chasser. Notamment, ils expliquaient que des fois, il suffisait de prendre parce que c'était des enfants souvent et des femmes qui gardaient les troupeaux. Il suffisait qu'ils prennent leurs sabots, en fait, qu'ils les tapent l'un contre l'autre pour que le loup s'en aille. Et donc, eux, sachant qu'ils côtoyaient des loups tous les jours, ils disaient, cet animal, il n'est pas normal. Ce n'est pas un loup, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils sont partis sur le loup-garou, où certains le décrivaient comme un gros chien, mais pas un loup. Et parce que bon, les témoignages qu'on a en fait sur les ouvrages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est une affaire qui a été beaucoup médiatisée à l'époque, parce qu'on était au XVIIIe siècle, on était quand même au début un peu du journalisme, et puis de...
Des gazettes qui circulaient,
voilà, les gazettes
almanachs,
qui se diffusaient également dans les campagnes, justement, par le biais des colporteurs. Et en fait, ces témoignages donc, sont tous écrits par des nobles et des bourgeois, donc, c'est-à-dire des gens lettrés qui avaient leurs propres opinions en fait, vis-à-vis de ça, qui étaient en plus pétris de tout ce qui était les découvertes des Lumières, la biologie, Buffon, enfin tout ça. Voilà. Et en fait, on n'a du coup que le point de vue des bourgeois et des nobles, et qui sont souvent assez méprisants vis-à-vis des paysans. Notamment dans le tome 1, si vous avez lu la tête, il y a une scène qui se passe dans une auberge,
oui,
que j'ai jugée très importante de mettre, où justement nous avons des chasseurs qui interviennent, et chez certains chasseurs, il y avait des bourgeois. Et j'ai fait intervenir donc un médecin, donc qui est censé avoir la science à l'époque, avec des paysans, des gens qui étaient là pour faire les battues. Et puis justement, les paysans... En plus, bon, je les ai liés à la première victime, Jeanne Boulet, donc, qui a été tuée vers l'Ardèche, en fait, vraiment vers le bas de la Lozère, en fait. Et donc, j'ai dit que c'était son oncle, mais bon, ça, j'ai complètement inventé. Hein. Mais c'était pour dire que lui, il dit, oui, mais c'est pas normal, cet animal, c'est un garou, il y en a plein qui le disent, c'est vrai qu'effectivement, il y en a plein qui le disaient. Et puis, le médecin qui part en disant, mais c'est n'importe quoi, on n'est plus à la période de la chasse des sorcières, enfin, voilà. Et donc là, on voit justement le point de vue qu'avaient ces gens donc, qui étaient censés avoir la science, on va dire, oui, le savoir, qui savaient lire et écrire, ce qui n'était pas le cas des trois quarts des paysans. Hein, et qui, du coup, donc les témoignages qu'on a sont tous vus par le biais en fait, de ces personnes. On n'a pas vraiment les témoignages directs des paysans, parce qu'ils sont toujours
du
retranscrits.
Du tiers état, en fait.
Voilà, du tiers état. Ou alors, il y avait les curés aussi, souvent, qui les retranscrivaient. Mais bon, alors là, on part plus dans la religion, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit aussi, parce qu'il y avait un souci. Bon, on va parler de l'évêque de Mende, justement, qui intervient en 1764, qui a fait passer une circulaire, en fait, dans les églises, où il faisait passer la bête pour un fléau de Dieu. Et qu'en fait, il disait, si la bête vous attaque, c'est parce que vous n'êtes pas de bons croyants. S'il faut savoir qu'au XVIIIe, il commençait à avoir un peu une crise, on va dire, de la religion, et que, bon, c'est avéré, hein. Souvent, en face des églises, il y avait une taverne. Et les... Oui, non, c'est vrai. Et les trois quarts du temps, les hommes, en fait, allaient à la taverne, mais pas à l'église. Et en fait, ça, les curés, ils voulaient ramener leurs ouailles. Et du coup, il y avait donc cette crise de la religion, déjà à l'époque. Et en fait, l'évêque de Mende a saisi cette histoire, en fait, pour lancer la colère de Dieu, en fait, en disant, oui, c'est Dieu qui vous punit parce que vous êtes de mauvais croyants.
Et c'est rendu dans votre bande dessinée.
Ma bande dessinée.
Il y a tout de même des personnages qui considèrent que les victimes de ce loup, qui est présenté d'ailleurs gros comme un veau d'un an, certains considèrent que c'est une punition divine.
Oui, et c'est vrai que c'était très fréquent chez les paysans, et notamment parce que bon, là, moi, j'ai commencé l'histoire à partir de 1765, donc je ne parle pas de 1764.
Et ça commence en Italie.
Oui, alors, oui, l'Italie. Alors, pourquoi l'Italie ? Peut-être que la question que vous voulez peut-être me poser,
oui,
non ?
Oui, en fait, oui, c'est
pourquoi
amusant,
l'Italie ?
Parce qu'il y a ce prêtre italien, oui. Francesco Cerruti, qui va venir en France, appelé par un frère,
l'abbé Ollier, qui est donc un personnage Ollier, historique, oui.
Qui lui aussi aimerait bien... Il y a toute une histoire aussi religieuse derrière pratique de l'exorcisme,
c'est
également.
Ça.
Et là, on est bien quand même sur... des personnages qui pensent qu'il y a une créature démoniaque, que le loup est une créature démoniaque, que c'est une sorte d'antéchrist.
C'est ça. Alors en fait, pour parler justement de l'abbé Ollier, le curé, donc Francesco Cerruti, est une invention, hein, il n'a pas existé. L'abbé Ollier, par contre, est un personnage historique. Alors il faut savoir que donc en 1765, parce que bon, l'affaire de la bête a fait énormément de bruit, et ça commençait à nuire en fait au roi Louis XV, parce que ses voisins en fait se moquaient de lui. En disant qu'il n'était pas capable de gérer des loups et que voilà, que la bête allait être envoyée pour dévorer tout le monde. Enfin bon, il se moquait du roi Louis XV, ce qu'il ne pouvait pas accepter, hein, forcément. On ne pouvait pas remettre en cause son autorité. Et du coup, il voulait que cette affaire en fait, soit vite réglée, parce que ça faisait trop de tapage. Et il a envoyé notamment, donc en 1764, bon, moi j'en parle, on les voit qu'à la fin, c'est des louvetiers, donc des louvetiers normands. Qui sont les... Oh, j'ai oublié leur nom, c'est grave. Donc les louvetiers normands qui ont été envoyés justement pour tuer la bête, mais qui n'ont pas réussi à l'avoir. Ils ont tué des loups, mais les crimes ont continué. Et comme ça
vous avez dit les crimes.
Les crimes, oui. Ah oui.
Oui. Ah, là, vous avez... Attention.
Oui, oui. Mais parce qu'il y a
et
beaucoup
là, vous
de
avancez
choses...
à des aspects de l'intrigue de la BD.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est vraiment... un loup, est-ce qu'il n'y a pas justement une intervention humaine derrière tout cela, une mise en scène, et quels sont les motifs et les intérêts d'un éventuel criminel ?
Oui, alors ça, je ne peux pas vous parler au niveau de mon histoire, mais au niveau justement des livres qui ont été écrits sur la bête. Donc il y a eu plusieurs théories, dont notamment celle comme quoi ça aurait été un tueur en série en fait, qui tuait en fait avec une peau de loup.
Oui,
déguisée.
Puisque les victimes étaient essentiellement féminines.
Alors essentiellement des femmes et des enfants, oui. Après, il faut savoir qu'en général, ceux qui gardaient les troupeaux, comme je vous disais, c'était des femmes et les enfants. Les hommes, en général, étaient dans les champs et souvent étaient en groupe, en fait, et plus ou moins armés, on va dire. Ce qui n'était pas le cas de... Après, bon, ils avaient des armes, ce qu'ils appelaient le paradou. Donc c'était un bâton, en fait, sur lequel ils mettaient un couteau et qui leur servait pour se défendre. Et en fait, en l'histoire des crimes, donc il y a ces théories comme quoi ça aurait été un tueur, en fait, et comme quoi il y aurait aussi l'intervention de nobles pervers derrière qui auraient, en fait, manipulé une personne qui pouvait dresser des loups pour, justement, commettre ces crimes. Mais ça, c'est vraiment des théories qui existent. Et en fait, il faut savoir que dans les témoignages de victimes de la bête, ou quand ils ont retrouvé les corps... Il y a des corps qui ont quand même été retrouvés décapités, mais décapités de façon nette. Donc décapités à l'épée, a priori. Pas décapités par un loup, parce que c'est un animal qui va décapiter, il va ronger, ça va se voir. Là, c'était coupé net. Et c'est vraiment très clairement dit dans les témoignages. Donc c'est vrai que là, on peut se poser des questions. Et il y a quand même des témoignages aussi à l'époque, notamment, bon, qui ont été plus ou moins étouffés selon les théories que les auteurs défendent. C'est pour ça que je dis que les auteurs, en fait, ils prennent un peu ce qui les arrange pour étayer leur théorie, et ils expulsent en fait tout le reste qui ne va pas dans leur sens en fait. C'est ça, c'est très pénible par contre quand on fait des recherches là-dessus, parce que du coup on ne sait plus sur quel pied danser. Et en fait il y a justement un témoignage, c'était un bourgeois justement dans une ville qui disait, mais au lieu de chercher des responsables dans les campagnes, allez les chercher dans les maisons. Donc qu'est-ce qu'il savait cette personne, on ne sait pas en fait. Pourquoi il dit d'aller chercher dans les maisons? C'est pas là qu'habitaient les loups a priori. Donc voilà, donc il y a plein de choses un peu bizarres comme ça, et oui, notamment la...
qui interpelle en tout cas. Hum? Qui interpelle.
Qui interpelle, et puis il y a des témoignages aussi comme quoi souvent l'animal donc a été vu avec un humain. Donc Jean Chastel, enfin pas Jean Chastel, son fils Antoine Chastel, parce que Jean Chastel est celui qui a tué la bête. Donc son fils Antoine Chastel, donc qui a plusieurs témoignages dessus, donc était un homme un peu sauvage en fait, qui vivait dans les, enfin qui s'occupait, qui était. Il faut savoir que son frère était garde-chasse et lui des fois assistait son frère, donc il s'appelait Pierre. Et il avait une réputation d'être un peu farouche, sauvage, et même d'être un loup-garou. Et on le traitait aussi de meneur de loup. Et il avait toujours avec lui, donc on le voit d'ailleurs, ça je l'ai respecté, donc quand on voit Antoine Chastel au début, avec son chien loup, il avait un gros chien, une grosse chienne rousse en fait, qui l'accompagnait tout le temps. Ouais. Et certains disaient que cet animal avait été vu avec la bête. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, c'est bizarre quand même.
En tout cas, vous rendez bien le contexte historique, oui, culturel de l'époque, puisque bon, il est aussi question des protestants, des huguenots, oui, des catholiques. Mm. Il y a cette chasse au loup. Louis XV s'en émeut, envoie effectivement un lieutenant de louveterie pour, oui, effectivement éradiquer cette bête qui a terrorisé les campagnes françaises. Oui. Et c'est une affaire qui a pris une certaine ampleur sur le plan d'autres royaumes d'Europe. Oui. Il y avait vraiment une angoisse très très forte.
C'est
vraiment la bête du Gévaudan.
C'est hein. ça. C'est... Bon, de toute façon, il faut savoir qu'il y a quand même eu 80 victimes recensées.
Oui.
Sachant qu'à partir de 1766-1767, c'est ce que c'était les curés qui notaient les morts. Et justement, à cause de cette peur, en fait, comme quoi c'était un fléau de Dieu, en fait. Les paysans, des fois, ils n'osaient pas dire, quand une personne était morte, ils n'osaient pas dire que c'était à cause de la bête. Du coup, il y a plein de victimes qui sont peut-être passées entre les mailles du filet, qu'on ne connaît pas, en fait.
En tout cas, merci, Marie Morgane, tout à fait passionnant, ces explications, cet éclairage historique que l'on a retrouvé à pas de loup dans le tome 1, puisqu'il y a une trilogie, donc le tome 1... Aidez-moi, oui, fille de Louvre, le tome 2, fils de l'aigle, oui, et le tome 3, enfant de la terre. Merci d'applaudir Marie Morgane ainsi que Mikuni Ikeda.
Ah, c'est ma fille.
C'est votre
c'est
fille.
C'est elle qui a fait les couleurs sur le tome 1.
Qui a fait les couleurs de la bande dessinée. Merci beaucoup.
Non, je n'ai pas, non, le profil. Sûr qu'on n'est pas nés tous égaux. Ma vie ne tient pas qu'à un fil. J'ai des mousquetons plein le dos. Je ne serai jamais le sujet d'une biographie et je le regrette. Je n'ai pas eu mauvaise fortune dans le passé, faut que je vive avec. Sûr que je manque d'intérêt, puisque je ne suis pas orpheline, puisque je n'ai pas. Si tout va bien, voyez ça avec ma mère. C'est pas ma faute si je fais bon train. J'ai rien pu y faire. Vrai, mes parents peu téméraires. Ils ont pas de médaille, leur manque pas de bras. Sont pas allés mourir à la guerre. Ça c'est pas de leur faute, y'en avait pas. Mais bon sang, j'ai rien à pleurer. Penses-tu qu'ils auraient fait un effort? Ils n'ont même pas divorcé. Je suis pas rodée contre le mauvais sort. Non, je suis pas née au bon endroit pour faire du courage mon blason. Je peux inventer, mais ça compte pas. Ça me fait pas le pied d'une cendrillon. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec mon père. Bon temps. les emmerdes te reviennent. Dis, tu voudrais pas m'en prêter? Moi j'ai jamais été prise en otage. J'ai pas le maquis dans la peau. Et mon bateau n'a jamais fait naufrage. Du coup je sais pas faire les radeaux. Au lieu de tout ça, c'est dans les choux. Je me suis plantée hier matin. Si c'est pas triste ça chez nous, la mode n'est vraiment pas un refrain. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec Lucifer. C'est pas de ma faute si je vais bon train. Il me refuse l'enfer. Et que diraient donc les journaleux si leurs plumes devaient rendre en potin les jours de ma vie toute bleue? Pour la boîte à sous du chagrin, il serait bien terne ma foi. Il mettrait moins de volonté. La chance me joue des tours parfois, mais je sais pas si ça suffirait. Alors je me suis dit je vais les aider. Pour ma carrière je me suis pendue. Mais quand je vous dis que je suis pas faite pour ce métier, voyez la corde s'est rompue. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être fidèle à votre rendez-vous littéraire sur Radio. Je rappelle que si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission grâce à Internet et grâce à notre site d'archives yannickpetit.fr. Nous allons terminer notre émission avec le troisième auteur qui participait à la table ronde que j'ai animée lors de la troisième édition du salon organisé par les bénévoles de l'association Mine de Lire à Blanzy, en Saône-et-Loire. Je veux parler de Duff, qui a mis en valeur, dans l'entretien que vous allez entendre, un tome parmi beaucoup d'autres, mais il fallait en retenir un. On a retenu la bande dessinée dite 33. Et pourquoi dit 33? Tout simplement parce que Duff n'est pas que dessinateur, mais il est aussi médecin. Duff.
Oui, j'ai les diplômes et tout, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même un stéthoscope sur le stand, s'il y en a qui sont malades.
Alors, tu habites du côté de Nevers ou à Nevers même?
J'habite à Nevers même, oui.
Et tu es toujours médecin dans un centre qui accueille des polyhandicapés ou tu as...
Là, j'ai changé d'option. Je travaille dans les soins palliatifs, donc c'est-à-dire les soins donnés aux personnes en fin de vie... pour des pathologies de type cancer, et je travaille pour la maison du handicap de mon département. Donc c'est la maison du handicap, c'est l'organisme qui attribue les cartes d'invalidité, enfin c'est administratif comme travail.
Alors tu as deux passions, la médecine et la bande dessinée. Tu dessines depuis l'âge de 7 ans, m'avais-tu dit dans une interview ancienne. Et puis, tu es aussi parfois appelé à devenir membre des jurys de bande dessinée dans de beaux festivals.
Oui, alors je suis membre du jury qui juge les BD réalisées par les personnes handicapées, qui s'appelle l'Hippocampe. Il y a un prix spécifique. Et le jury se réunit à Angoulême dans le cadre du festival de BD international d'Angoulême, que vous connaissez peut-être, qui est la plus grosse manifestation BD mondiale, probablement. Et donc, je fais partie du jury.
Bravo. Et puis, tu vas aussi souvent au salon de la BD de Blois, qui est, je crois, aussi un important salon bande dessinée en France.
Oui, c'est le troisième de France. Le deuxième, c'est Saint-Malo et le premier, c'est Angoulême. Voilà.
Alors, en fait, la BD, tu as commencé un peu pendant ton service militaire.
Alors, voilà, j'ai commencé par...
Parce que là, attention, ta première BD, Elle est disponible sur ton stand, là, par exemple ?
Non, la première
Antoine
BD n'est
Chabouillard,
plus...
le premier héros de BD 100% grabataire, oui, avec le sous-titre « Panique à l'hospice oui, ». Alors, qui est cet Antoine Chabouillard ?
Ah oui, c'est un personnage que j'ai créé pendant mon service militaire, pendant des périodes de désœuvrement qui étaient nombreuses, où je travaillais à l'hôpital militaire de Bourges. Et donc, on a créé Antoine Chabouillard, un ancien combattant de 14. À l'époque, il y en avait encore. Maintenant, il n'y en a plus. Et qui fait suer tout le monde, qui se répand de différentes manières dans le service. Voilà,
qui plotte les infirmières.
Qui plotte les infirmières. Enfin, vraiment le sale vieux, quoi. Et donc, donc on avait créé ce personnage à l'hôpital militaire de Bourges. On avait même fait un canular. On avait déguisé un de mes collègues aspirants en vieillard avec un béret, des charentaises on avait trouvé des bandes moltières, on lui avait mis des bandes moltières sur le pyjama et on l'avait mis dans un lit, on avait fait une observation et le chef de service quand il est passé n'y a vu que du feu.
Lorsque j'étais étudiant à la faculté des lettres à Besançon, j'avais beaucoup d'amis qui étaient étudiants en médecine. Et il faut reconnaître que les étudiants en médecine, les carabins, sont assez dingos. Il y a un véritable humour. Je me suis toujours demandé pourquoi cet univers très, très sérieux qui demande aussi un travail intense, hein, parce que la première année de médecine dans les facultés, aujourd'hui avec le numerus clausus, c'est peut-être encore plus compliqué qu'à ton époque, Duf. Comment se fait-il qu'il y ait cette espèce de joie de vivre, de folie, d'humour si répandu chez les gens de médecine ?
Je pense que
je te parle des étudiants. Hein. Je ne sais pas si après les médecins sont tous... c'est un métier difficile aussi.
Je pense que pendant les études, c'est les jeunes qui sont confrontés à la mort, à la souffrance, comme ça, très rapidement. Moi, en deuxième année, j'ai été confronté à la mort d'une manière assez brutale. On m'avait envoyé, j'étais tout jeune stagiaire, c'était mon premier jour, on m'a envoyé prendre l'attention d'un patient dans sa chambre. Et quand je suis arrivé, le patient était mort et c'était le premier mort que je voyais. Et donc, il y a besoin d'un exutoire un petit peu. Les étudiants en médecine sont souvent dans les excès au niveau de l'humour, pour picoler avec les copains, et je pense que c'est une compensation du choc que ça représente quand on a 18-19 ans. D'être confronté à la mort et à la souffrance pendant les stages.
Alors je me suis énormément amusé avec Dite 33. Alors je connaissais tes BD sur Freeze où là tu avais mis en scène alors un chien dans son quotidien de chien, c'est-à-dire le chien qui passe sa vie à dormir, qui mange les crottes de chien de ses congénères quand il ne fait pas d'autres bêtises à la maison. Là on est vraiment dans une bande dessinée qui nous amène dans l'univers du médecin généraliste. Alors, un univers qui, bon, quand même un peu outrancier, même si je subodore qu'il y a des histoires, des anecdotes réelles à la base de certains de tes dessins.
Oui, et souvent c'est inspiré de situations réelles que je déforme et que je plie un petit peu à mon humour. Mais c'est inspiré, oui, et souvent de mon expérience de généraliste. J'ai eu un cabinet pendant 10 ans. Et donc j'avais noté des perles et noté des situations rigolotes pendant mon exercice de médecin généraliste en cabinet.
Alors évidemment, dans la bande dessinée, il y a toute une série de personnages un peu archétypiques. Alors bon, il y a les enfants dans une page qui a pour titre « Fumier de gamin ». Ça, c'est assez drôle aussi, c'est la maman qui arrive avec son fils. « Docteur, mon fils est sourd. Quand je lui demande de ranger sa chambre, de faire son lit, il n'entend pas. » Et il y a le médecin qui dit « Fraise tagada ». Et le gamin, quoi, ou. Bon, ça c'est très drôle, bien sûr, « Fumier de gamin ». Il y a un militaire aussi qui apparaît. Et puis alors, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Super Glandos.
Ah oui.
Super Glandos.
C'est un personnage récurrent, c'est le gars qui essaye de louvoyer entre toutes les aides d'État possibles pour ne pas travailler.
Alors, il y a aussi... Alors, ça, c'est très drôle, mais on pourrait te taxer de grossophobe. Il y a tous les dodus, les gros, les ventripotents qui ont beaucoup de problèmes de cholestérol. Alors là, c'est une catastrophe. Hein. Monsieur Dullard, par exemple...
Oui, c'est ça. Il y a Monsieur Dullard qui mange des rillettes, qui mange du saucisson et qui est censé être au régime pour son cholestérol. Voilà, et qui a un t-shirt fait de l'andouillette. Donc voilà. C'est une BD, si vous avez lu, c'est plein de détails. Il y a beaucoup de détails qui sont cachés dans les dessins. Et en particulier, il y a souvent des gadgets de laboratoire, parce que quand on est médecin, on est inondé de petits gadgets rigolos, de Sainte Vierge qui neige à l'effigie du labo, de post-it, de stylos fantasy, etc.
Et il y a même un accroche-enfant au bureau.
Oui, un accroche-enfant.
Un porte-enfant ou accroche-enfant.
Un accroche-enfant, oui, comme peuvent les accroche-chiens dans les boulangeries.
Alors, il y a les sportifs, les athlètes qui viennent, bien sûr, normal, suivis de leur régime pour gagner des marathons. Alors, il y a aussi le représentant de laboratoire, alors qui vient toujours avec des choses un peu qui ou échouent ou sont complètement pourries, quoi.
Oui, c'est le laboratoire. Je me souviens plus.
Alors, il y a le laboratoire Schwartz et Neger.
Oui, yes. Ah oui, le laboratoire qui présente des gadgets foireux, c'est le laboratoire Patafiol et Malofion. Et donc, il arrive toujours avec des... Il arrive avec un distributeur de post-it qui ne s'arrête pas, qui débite des post-it à toute vitesse. Il arrive avec un désodorisant qui est explosif. Enfin bon, là, c'est la caricature de Gaston Lagaffe, le représentant. J'ai recopié Gaston Lagaffe et c'est un représentant de labo... gaffeur, voilà.
Alors, Duf, dans cette bande dessinée dite 33, les aventures donc du docteur, Eugène, médecin de famille, j'ai l'impression que tu prends certaines précautions avec les types de personnages que tu mets dans tes BD. Par exemple, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de personne d'origine étrangère, tu joues pas tellement sur les accents. On sent une certaine prudence quand même, non? On est obligé un petit peu... de faire attention, peut-être.
Oui.
Parce que tu présentes quand même des Français très franchouillards. C'est vrai, il y a un petit rappel Bidochon qui est flagrant.
Oui, c'est vrai que je ne me suis pas risqué à faire de l'humour en présentant des personnes de couleur ou des personnes un peu différentes, parce que ça reste une BD d'humour, quoi. Donc, voilà, j'ai dessiné ce que j'aime dessiner aussi, c'est-à-dire des grosses dames et des... J'ai beaucoup de plaisir à dessiner ça, voilà.
Alors, ce qui est aussi savoureux dans la bande dessinée, c'est tout ce qui relève des erreurs de langage, des confusions ou des déformations des termes. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Évidemment, il faut imaginer tout cela distillé dans différentes vignettes. Moi, j'ai beaucoup ri. Alors, il y a le chirurgien pédiste, il y a un curé. Alors, le curé, justement, la bonne du curé, elle dit « il mange comme un orgue ».
Oui.
Alors il y a le gros monsieur ventripotent qui dit « Je suis été voir la régimeuse ». Floriane Bremand, professeur de lettres classiques, appréciera ce français. Il y a alors, ah oui, cette femme qui veut absolument se faire ligoter les tronches.
Oui. Oui,
la déclassification des os, et puis alors... Celle-là, je l'aime beaucoup, c'est une accumulation. Alors celle-là, elle est lourde et riche, généreuse presque. Mon mari, il a fait un accident vasculaire blénorragique au citron céphale.
Voilà. Donc mais ça, c'est des vrais, hein, c'est des vrais.
Mais
pierres,
tu dois entendre de véritables choses dans ce genre-là, j'imagine.
Ah oui, c'est ça, mais il faut toujours avoir un carnet pour noter les
perles. Tu notes tout discrètement.
Je note les perles, oui, voilà. Je les note.
Tu as bien raison.
Et je continue de les noter dans ma...
Alors, tu inventes des syndromes quand même.
Oui, oui.
Par exemple, il y a le syndrome de la queue de cheval.
Okay. Oui, alors
tu t'en rappelles? Parce que bon, on oublie peut-être un peu ces dessins.
Alors, le syndrome de la queue de cheval, il existe réellement.
Ah bon?
En fait, oui.
Ah, j'ai cru que c'était une plaisanterie.
Non, c'est pas une plaisanterie. La queue de cheval, c'est la fin de la moelle épinière, se termine par un certain nombre de nerfs qui sortent de la moelle épinière et qui ressemblent au crin d'une queue de cheval. Et le syndrome de la queue de cheval, c'est les gens qui ont soit des hernies discales, soit des tumeurs au niveau de cette queue de cheval, et ils ont des symptômes à type d'incontinence fécale ou urinaire. Donc c'est un véritable syndrome qui existe vraiment.
Alors un syndrome un peu farfelu, il y a ce pauvre homme qui a les fesses super poilues,
oui,
et qui est obligé de les laver avec beaucoup de shampoing, au point que sa femme trouve que ça commence à coûter cher en shampoing et qu'il faudrait peut-être essayer de trouver une solution.
Oui, hein. Voilà.
Bon, là on est... Alors il y a la fécondation in vino.
Ah oui,
parce qu'il y a aussi toute la galerie des alcooliques, hein,
ah oui.
les addictions, elles sont nombreuses.
Ouais, la fécondation in vino, c'est l'histoire d'une pauvre femme qui était bourrée à un pot de départ et elle pense qu'elle a été mise enceinte par ses collègues, donc elle pense qu'elle a eu une fécondation in vino.
Mais est-ce que tu as reçu dans ton cabinet des patients en état alcoolique?
Oui, bien sûr, les patients en état d'ébriété, ça peut arriver. Les vrais alcooliques, effectivement, ont besoin de boire pour tout le temps. Donc, il y en a qui arrivaient, ouais, même bourrés le matin, hein, effectivement. C'est...
Alors, vois-tu, Duf, nous avons parlé de la bande dessinée de Marie Morgan, Lupus Dei. Et il y a une de tes vignettes où il est question du Gévaudan. Est-ce que tu peux retrouver la vignette ? C'est un jeu de mots.
Oui, c'est une mémé qui a perdu son dentier, je crois. Ouais.
Exactement.
Et qui dit, oui, et le médecin il dit Gévaudan, oui.
La bête du Gévaudan. Ça, c'est assez. J'aime bien. C'est très...
Ah, ça fait le lien, c'est marrant. Ouais.
Alors, bien sûr, il y a la patiente qui a peur des piqûres, c'est Madame Jeton-Chocotte. D'ailleurs, le pauvre médecin se retrouve en garde à vue parce que. On la retrouve tellement effrayée au sommet d'une armoire, elle hurle au viol et il se retrouve encadré par les policiers.
Oui, ouais, dans chaque album, il fait un passage à la police, le pauvre docteur, parce qu'il a tout le temps des ennuis.
Alors, bien sûr, parfois c'est tout outrancier. Peut-être y a-t-il des personnes qui seraient un peu choquées par peut-être un côté un peu vulgaire, enfin... Il y a une audace qu'on trouve chez pas mal de dessinateurs. Je pense à des gens de Fluide Glacial, d'Arakiri ou d'autres supports.
Oui, c'est ça, mais c'est un humour plutôt rablaisien, si vous voulez.
Rablaisien.
Oui, je dirais que c'est ça qui correspond, c'est-à-dire oui, un mélange de truculence et puis bah oui, des choses un peu grasses, un peu... oui, un peu grossière, si vous voulez.
Oui.
C'est une BD pour adultes, hein, au départ.
C'est une BD pour adultes, oui. Alors, il y a cette femme qui... Et là, Floriane Bremand va être très intéressée. C'est une patiente qui vient voir donc le docteur Eugène et qui lui dit « Même la nature est macho, docteur. Pourquoi sommes-nous les seuls à avoir l'ostéoporose, pardon, nous les femmes ?» Et alors, très belle réponse du docteur Eugène qui lui dit « Ah, mais pas du tout !» Ostéoporose pour les filles et ostéopo bleu pour les garçons. C'est mignon, c'est très beau ça. Ça c'est subtil, c'est délicat, je trouve ça très mignon quoi. Alors bien sûr, bonne nouvelle, sida, les crottes de yeux et les pellicules ne sont pas contaminantes. Enfin, il y a vraiment de quoi rire. Cette femme aussi qui a les fesses tellement écartées qu'elle est obligée d'utiliser du sopalin. Moi, j'aime bien, c'est très français, quoi, finalement.
Cette
audace. Oui, rablaisienne, ce côté un peu voilà. Du moine rablaisien. Il y a aussi l'affaire du pot de mer de Piégé, deux morts, en pleine page du Journal du Centre. Tu as dessiné, d'ailleurs, pour
Oui, il y a une partie des vignettes qui sont parues dans le Journal du Centre parce que j'animais une page santé. Et donc, c'était illustré à chaque fois par un dessin. Et j'en ai regroupé quelques-uns dans l'album, effectivement.
Et puis, les dernières vignettes, Duf, docteur Eugène devant son bureau, qui a d'ailleurs une tirelire en forme de cochon sur son bureau devant lui, parce que bon, les médecins ont la réputation de gagner beaucoup d'argent. Et lui, il a une calculatrice à la main. Et il dit « J'ai vu plus de 16 tonnes de malades cette semaine. »
C'est la conclusion.
Je dois longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pourquoi. On se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps aimer, des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et
prendre l'autre dans ses bras, pour écouter ce qui ne sort pas, et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes, et au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque. Contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin. Mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent. Danse. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'était Duf, à l'instant dernier participant à la table ronde que nous avons enregistrée le 10 octobre dernier lors du Salon du Livre de Blanzy. Vous retrouvez d'ailleurs les noms des auteurs et les références de leurs ouvrages, ainsi que tous les liens vers les sites utiles sur la page accompagnant le podcast sur notre site d'archives yannickpetit.fr. La semaine prochaine, 27 novembre, toujours sur Radion, à partir de 11h, nous vous proposerons la deuxième table ronde enregistrée en public au Salon du Livre de Blanzy. Table ronde qui réunissait Claudine Vincenot et Olivier Delbar pour un recueil paru à l'Atelier des Noyers qui a pour titre « Voyage en pays celte ». Il s'agit d'un recueil de gouache d'Henri Vincenot qu'Olivier Delbar a accompagné de textes poétiques. Nous serons aussi dans cette table ronde avec Alain Lequien, dit Bourguignon La Passion, qui signe un récit de voyage intitulé « Sur les pas de Sigéric ». La Francigena de Calais à Aoste, 44 jours, 1134 kilomètres. Eh bien, il a marché, effectivement, Alain Lequien, entre Calais et Aoste, en passant par la Suisse, Lausanne, le col du Grand Saint-Bernard, et n'a pas pu partir de Canterbury, qui est normalement le point de départ de cette fameuse Francigena. Enfin, c'est à découvrir la semaine prochaine dans Wagon Livre. Et puis, il y aura également à cette table ronde Didier Cornaille, qui a le plaisir de voir réédité aux Presses de la Cité son tout premier roman. Tout premier roman qui avait d'ailleurs été édité par Gérard Gauthier aux éditions de l'Armançon. Roman qui est à nouveau disponible en librairie aux Presses de la Cité. C'est au programme de Wagon Livre donc samedi prochain. Avant de vous quitter, je dois impérativement adresser des remerciements appuyés à Christophe Royer, qui a très largement contribué à l'organisation technique de ces tables rondes et qui a aussi grandement contribué à leur enregistrement. Merci à Christophe Royer. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Excellente journée à l'écoute des programmes de Radion. Au revoir et à samedi prochain.